Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Fin février au Vatican doit se tenir une rencontre internationale sur la protection des mineurs à laquelle doivent participer des évêques venus du monde entier, et ce afin de donner une réponse forte et claire à cette crise qui fut rien moins que des tempêtes et des ouragans qui ont assailli la barque de Pierre, selon les termes même du pape François. Si d'ici à cette rencontre l'on sent bien que la vie de l'Église est en partie suspendue, la récente fête de Noël a été l'occasion de nombreux discours du pape sur lesquels il convient de se pencher. Mais la vie de l'Église dans le monde, c'est aussi la situation en République démocratique du Congo ou en Ukraine. Bref, un décryptage s'impose. Cette émission sur l'actualité de l'Église universelle, donc en ce mardi, émission qui a été décalée pour cause d'annulation pour des raisons de santé, donc la semaine dernière. Nous sommes ce matin avec Nicolas Senez, journaliste à Rome, correspondant du journal La Croix. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Philippe Dazébrun, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai cru comprendre, Nicolas, qu'on ne s'était pas tout à fait compris sur la date, donc vous n'avez pas beaucoup de temps. On va vous prendre du coup juste peut-être les 5 minutes que vous avez, et puis toutes mes excuses pour cette incompréhension. J'avais une question. Il est de tradition que le pape François fasse un discours à la Curie à la fin de l'année. Cette année, le pape François l'a fait comme les années précédente. Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, a l'habitude de dire que le pape François utilise la brosse à récurer pour s'adresser à, parfois à ses collaborateurs et en l'occurrence à la Curie. Est-ce que ça a été à nouveau le cas dans ce discours face au scandale « La lumière est plus forte que les ténèbres » titré Vatican News, où le pape François est revenu assez longuement donc sur une prise de conscience autour des affaires de pédophilie et une nécessaire transformation des comportement.
Oui, mais là, le pape s'est beaucoup concentré cette année dans son discours à la Curie, qui concernait à la fois la Curie, mais finalement toute l'Église. Hein. Il l'a consacré sur la question des abus sexuels, et ça a été vraiment une charge contre, à la fois contre ceux qui commettent les crimes d'abus sexuels, mais aussi contre ceux qui les utilisent pour déstabiliser ceux qui, au sein de l'Église, utilisent la question des abus sexuels de manière finalement politique pour déstabiliser le pape et la Curie.
Alors il a eu des phrases fortes, hein. Entre autres donc il a nommé les évêques indirectement, reprenant un sermon de Saint-Augustin, cite Vatican News, François a rappelé qu'il y a dans les rangs des évêques du froment aussi et de l'ivraie parmi le peuple. Je crois en d'autres circonstances que le pape François parlait des loups terribles, en tout cas pour ceux qui sont qui commettent des actes de pédophilie, les loups terribles prêts à dévorer les âmes innocentes. Qu'est-ce qui vous a frappé d'autre dans ce discours? J'ai noté de vifs remerciements à l'adresse des journalistes. Ils n'ont pas toujours bonne presse en ces périodes de crise. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
C'est quelque chose qui a fait effectivement assez plaisir aux journalistes, ou un moment où il y a des voix dans l'Église qui nous reprochent de trop parler des questions d'abus sexuels. Au contraire, le pape a remercié les médias d'être ceux qui avaient permis justement de dévoiler les abus et de permettre justement que l'Église puisse les punir. Et ça, ça a été quelque chose qui effectivement, au moment où le pape l'a dit dans la salle de presse, ça nous a fait chaud au cœur, quoi, voilà.
Nicolas Senez, juste dernière question, puisque vous allez devoir partir. A-t-on raison ai-je eu raison de dire en introduction que la vie de l'Église continue à être un petit peu suspendue à cette convocation des présidents des conférences épiscopales et du 21 au 24 février prochain à Rome sur ces abus sur le thème de la protection des mineurs?
Elle est suspendue plus largement à toute la question de des abus sexuels. Hein. C'était le cardinal O'Malley qui, en septembre dernier, au moment de la réunion de la commission de protection des mineurs qu'il préside, disait que si l'Église est incapable de répondre à cette question, d'en faire une priorité, toutes nos autres activités d'évangélisation, de charité, d'éducation seront touchées. Et on voit bien aujourd'hui que toute la crédibilité de l'Église, tous les discours de l'Église sur autre chose est décrédibilisée par cette question des abus sexuels. Donc le pape a tout à fait conscience qu'il faut d'abord régler cette question-là pour que la parole de l'Église soit entendue sur tout le reste. La parole et l'action de l'Église soient entendues et comprises sur tout le reste. Donc ce sommet auquel il a convoqué les présidents de conférences épiscopales, donc du 21 au 24 février prochain, est stratégique pour lui, parce que c'est vraiment le moment où on peut faire, on va dire, rentrer dans la tête d'un certain nombre d'évêques dans le monde que cette question-là est centrale, que ce n'est pas une question qui concerne simplement les anglo-saxons ou d'une manière plus générale un Occident qui est considéré comme dépravé dans le reste du monde, mais qu'il y a un véritable problème, y compris dans l'Église, dans la manière dont elle est organisée, dans la manière où le pouvoir s'y distribue, qui porte aux abus et qui porte à une certaine culture de la protection aussi de ces abus dans l'Église. Donc c'est vraiment un changement de mentalité qu'il veut imprimer, et ce sommet, cette rencontre de fin février est vraiment cruciale pour ça. Alors en même temps, on sait au Vatican, hein, ceux qui organisent cette rencontre savent très bien qu'elle ne va pas tout régler, mais qu'elle sera au moins le début d'un changement de mentalité pour un grand nombre de responsables dans l'Église. Peut-être moins, il y a certains épiscopats qui ont compris ça, parce qu'ils se sont pris en pleine figure aussi ces affaires-là, qu'ils ont commencé à évoluer. Je prends par exemple à l'Irlande, hein, qui est un pays qui a été un des premiers à être confronté à cette question des abus sexuels, dont les évêques ont beaucoup travaillé, justement avec les laïcs aussi, avec les autorités civiles, pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé et faire évoluer l'Église vers une culture justement plus saine, où justement l'abus n'est pas seulement puni. Alors, le souci du pape, c'est pas que l'abus soit puni, ça, cette tolérance zéro du pape Benoît XVI est toujours en place. Mais là, le pape François voudrait la compléter d'une culture du jamais plus. C'est-à-dire, c'est bien de punir les abus, mais c'est encore mieux d'avoir une culture dans l'Église qui permet que l'abus ne se déroule pas.
Eh ben, merci beaucoup Nicolas Solès, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup de vous être rendu disponible et pardon de cette incompréhension. Pour finir sur ce discours à la curie romaine, le pape François qui, à propos du fléau des abus, a filé une comparaison avec le roi David, parlant des abus de pouvoir, des abus de conscience ou des abus sexuels qu'avait commis ce grand roi, cette grande figure donc de l'Ancien Testament. Et puis je finirai par une autre citation. François a martelé que face à ces abominations, l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qu'il est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas. Et enfin, il est indéniable que certains responsables par le passé, par légèreté, par incrédulité, par impréparation, par inexpérience ou par superficialité spirituelle et humaine, ont traité de nombreux cas sans le sérieux et la rapidité requise. On va continuer avec vous, Philippe Dazébrun, et on va dire exit pour la réforme de la curie que je voulais évoquer avec Nicolas Senez. On fera ça, c'est pas grave, le mois prochain. De toute façon, on a encore le temps. Cette réforme est encore dans les tuyaux. En parlant donc de la journée mondiale de la paix, le pape a interpellé les politiques, donc cette journée mondiale est maintenant une tradition dans l'Église, c'est le 1er janvier, le discours avait été rendu public lui dès le 19 décembre, un texte intitulé « La bonne politique est au service de la paix ». Vous aviez pour commencer, vous qui êtes historien de formation, vouliez nous refaire un petit décryptage de cette journée mondiale de la paix.
Oui, cette journée date des années 60. C'est Raoul Folereau qui avait soumis l'idée au secrétaire général de l'ONU à l'époque en 1964 de consacrer...
Raoul Folereau, il faut rappeler peut-être
qui était qui avait lutté, n'est-ce pas, contre les pandémies, notamment la lèpre, n'est-ce pas, Et il lui avait demandé de consacrer une journée à la lutte contre les taudis, contre la pauvreté, contre les épidémies en tout genre, en prélevant ce que coûte une journée à un État, pour son budget, consacré à l'armement. Et l'idée, si vous voulez, a fait son chemin, alors peut-être pas à l'ONU, mais en tout cas dans la tête du pape, qui était Paul VI à l'époque, et en 1968, il instaure cette journée mondiale de la paix, et c'est pour à cette occasion que le pape délivre un message, et cette année, en effet, le pape François avait choisi comme thème la bonne politique au service de la paix.
Alors il commence par parler de la paix, il a cette phrase « La paix est comme l'espérance dont parle le poète Charles Péguy ». Voilà, petit cocorico national, elle est comme une fleur fragile qui cherche à s'épanouir au milieu des pierres de la violence. Et puis le pape François après donc fait une méditation sur ce qu'est la bonne politique. Beaucoup de choses à dire. Il rappelle que c'est une forme imminente de la charité, expression qu'avait déjà utilisée son prédécesseur Benoît XVI, entre autres dans l'encyclique Caritas in Veritate. Avant qu'on rentre dans le détail, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce message, Philippe Dazébrun ?
Il y a deux plans. Le premier plan est, je dirais, d'ordre général, très positif, qui appelle les chrétiens à saisir le fait politique, n'est-ce pas ? Et en cela, il expose un peu ce qu'est la philosophie de Maritain dans l'humanisme intégral, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être citoyen, membre de la cité, en tant que catholique, mais en catholique, c'est-à-dire se saisir du débat et l'infuser en quelque sorte des idées de l'évangile. Et donc il appelle les chrétiens à prendre la responsabilité et de ne pas laisser forcément les gouvernants se saisir de dossiers, mais eux-mêmes les prendre à bras le corps et participer en quelque sorte à la gouvernance commune. Donc ça, je dirais que c'est très positif et réveille un peu, mais ça c'est pas nouveau chez lui, les consciences catholiques à être acteurs dans la société. Ça c'est le côté, je dirais, positif. Et puis il y a une dénonciation. Il y a une dénonciation, la dénonciation de la frilosité, de la méfiance, de tout ce qui conduit les gouvernants à pratiquer une politique de fermeture, un refus de la fraternité. Et on voit bien là ce qui est ciblé, c'est-à-dire les nationalismes qui ont aujourd'hui cours en Europe.
Alors on va y revenir un petit peu plus longuement, si on reste sur les considérations générales. J'ai noté, parce que je me suis dit qu'il était important de les avoir en tête, qu'une bonne politique, c'est entre autres la pratique de vertus humaines, comme la justice, l'équité, le respect réciproque, la sincérité, l'honnêteté, la fidélité, ça vaut le coup de les reciter, justice, équité, réciprocité, sincérité, ça m'a un petit peu étonné, honnêteté, fidélité, on n'a pas l'habitude parfois d'entendre certains, alors honnêteté, on y aspire toujours, équité, oui, fidélité, sincérité, sincérité, je ne sais pas, ça vous inspire quelques commentaires ?
C'est un discours qu'on entend depuis quelques années. On n'a qu'à prêter l'oreille à certains discours très, 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 très contemporains depuis ces quelques semaines en France pour entendre cela aussi de ceux qui revêtent un gilet jaune parfois. Donc, c'est effectivement, on est aujourd'hui dans un moment de la vie politique européenne et pas seulement française où la représentativité ou la démocratie représentative souffre considérablement de ce discrédit parce qu'il y a un procès en insincérité et en tout ce que peut espérer effectivement le pape dans ce discours. Et puis il y a, me semble-t-il, une autre dimension qui est l'intérêt que l'on peut avoir aux plus pauvres. Et le pape a été très vigoureux dans son discours, en disant qu'il ne fallait pas priver les pauvres de leur espérance. C'est beaucoup quand même.
Ensuite, le pape cite des béatitudes politiques qui ont été proposées par le cardinal vietnamien François-Xavier Nguyen Van Thuan, décédé en 2002, dont le procès de béatification est en cours. On ne va peut-être pas toutes les citer, mais quand même quelques-unes. Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité, et c'est pas rien. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. Et enfin, heureux le politicien qui réalise l'unité. Il y en aurait d'autres à citer, je le ferai peut-être après votre intervention. Est-ce qu'elles vous ont inspiré, ces béatitudes? On peut toujours se dire, à propos de ces messages du pape François, ou des papes en général, pour des journées mondiales, en plus qui finissent par devenir presque comme des marronniers, comme on dit dans le métier, on laisse parler le souverain pontife, et puis on n'écoute pas tout à fait. On se dit, bon, déjà les béatitudes, c'est difficilement accessible, alors les béatitudes en politique, là pour le coup, il n'y a que le pape qui y croit. Est-ce que ça vous fait sourire, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de notre conscience, même parfois chez nous, chrétiens, qui a ce type de raisonnement?
Oui, forcément. C'est-à-dire, le pape est là pour nous rappeler un idéal, c'est-à-dire l'appel à la sainteté. Il y a, me semble-t-il, quand même, une possibilité de sainteté en politique. C'est au fond cela, l'appel. Quand on songe, n'est-ce pas, à des hommes comme Robert Schuman, n'est-ce pas, ou à quelques autres, on voit bien qu'il y avait chez eux une forme d'idéal, et d'idéal sous-tendu par le christianisme, qui appelait chez eux, eh bien, cette crédibilité, cette cohérence, cette capacité à écouter, tout ce que le pape appelle, finalement, chez chacun d'entre nous, pour essayer d'être les témoins du Christ. Et c'est très important, je dirais, aujourd'hui, parce que le pape en parle aussi dans son discours. Il y a un discrédit beaucoup plus fort de la part dont souffrent les hommes politiques dans la jeunesse. Et le pape tient beaucoup à ce dialogue qui ne doit pas être interrompu entre ses gouvernants et cette jeunesse pour qu'elle ne désespère pas. Je crois que le mot majeur dans l'histoire de notre contemporanéité, c'est la désespérance.
Je vais citer donc les trois dernières béatitudes. Heureux le politicien qui s'engage dans la réalisation d'un changement radical. Heureux le politicien qui sait écouter. Heureux le politicien qui n'a pas peur. C'est donc les béatitudes politiques de feu le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan. J'aimerais juste, avant qu'on fasse une première pause, qu'on revienne sur la critique pas du tout déguisée que le pape adresse à l'égard du repli identitaire ou des tentations nationalistes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris en Europe. Là aussi, c'est difficile parfois à entendre pour un certain nombre de chrétiens, peut-être à raison. Nous vivons ces temps-ci dans un climat de méfiance qui s'enracine dans la peur de l'autre ou de l'étranger, dans l'angoisse de perdre ses propres avantages et qui se manifeste malheureusement aussi au niveau politique par des attitudes de fermeture ou des nationalismes qui remettent en cause cette fraternité dont notre monde globalisé a tant besoin. Quel commentaire cela attire chez vous ?
Je crois que on ne peut pas ne pas être chrétien sans une forme quand même de générosité. Et la générosité de l'accueil fait partie de la démarche chrétienne. Alors il est vrai que, tout comme les politiques du reste, ces paroles se heurtent à des réalités, à des égoïsmes. C'est vrai, mais je crois que si le pape ne rappelle pas cet idéal, qui le fera ?
Voilà, on va faire une première pause. Ce message pour la Journée mondiale de la paix, je le dis quand même, est à retrouver, peut-être retrouver sur Internet, sur le site du Vatican, vaticannews.va. On fait une courte pause et puis on vous retrouve pour parler de la Journée mondiale des malades, de la situation en République démocratique du Congo, où l'Église joue peut-être plus que jamais un rôle clé. On parlera aussi de l'Ukraine, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont c'était les 70 ans en 2018. Bref, plein de sujets passionnants, restez avec nous. Made to feel like a face.
untouched by the time. Think you're one of a kind.
L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous étions au début de cette émission avec Nicolas Senès, journaliste à Rome, correspondant du journal La Croix, et Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Cette émission, on remercie Philippe Dazébrun et on lui trouvera d'autres collaborateurs au fur et à mesure de l'année, on l'espère. On voulait s'arrêter sur un autre message. Il y a beaucoup de messages à l'occasion des fêtes du pape François. Il y a eu beaucoup de messages à l'occasion des fêtes du pape François. On aurait pu citer le message de la journée mondiale des migrants aussi. Évidemment, on aurait pu citer les homélies de Noël. On a choisi le message du pape pour la journée mondiale du malade, qui aura lieu le 11 février prochain. Mais les messages des papes en général sont publiés à l'avance. C'est une date importante pour nous, puisque c'est aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et donc, grande fête dans notre région. Qu'est-ce que vous avez retenu de, peut-être toujours les mêmes choses, en introduction de la présentation de ce message, le pape François parle essentiellement, ou fait comme toute une méditation autour du thème de la gratuité et de la place de la gratuité dans le soin.
Oui, Philippe Dazébrun. Il cite cette parole de Matthieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Pour lui, l'acte médical relève d'un don total, en quelque sorte, qui vise bien sûr à soulager le malade sur le plan médical. L'acte doit être effectivement curatif. Mais il incite quand même à réfléchir sur la dimension, en quelque sorte, spirituelle de la démarche. C'est-à-dire que lorsqu'on soigne, on ne doit pas uniquement se préoccuper de la technique, qui est essentielle encore une fois, mais aussi de prendre le malade dans sa totalité. Et c'est à partir de là, à partir du moment où le malade est conçu comme une totalité, comme une personne, que l'acte médical devient absolu et total, et que le don peut se faire pour lui.
Vous me disiez que c'était, il était bon de l'entendre, particulièrement peut-être en France, où on n'avait pas forcément l'habitude de prendre la personne dans sa totalité, justement. Est-ce que vous pouvez me refaire cette réflexion ?
Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que le médecin étant spécialiste en soi, quand vous allez chez le rhumatologue, il va vous soigner le rhumatisme, mais pas forcément votre mal-être par rapport au rhumatisme, vous comprenez? Et donc c'est une vision très mécaniste finalement que la médecine occidentale a absorbée tout au long du 19e siècle du reste, et sans prendre cette totalité qui... est davantage prise en considération dans les médecines orientales notamment, hein, en Inde en particulier ou en Extrême-Orient. On prend la totalité de l'individu pour le soigner localement, je dirais. Notre société occidentale a un côté mécaniste qui, effectivement, exclut l'âme de l'ensemble. Et il y a une recherche aujourd'hui dans les milieux hospitaliers pour essayer de donner, effectivement, un caractère spirituel, sans caractère religieux, bien évidemment. Les médecins ne sont pas là pour ça, les infirmiers non plus. Mais en tout cas, pour donner un caractère spirituel, effectivement, à la démarche de l'aide-soignant ou de l'infirmier ou du médecin.
Le soin des malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme une caresse à travers lesquels on fait sentir à l'autre qui nous est cher. Le pape François qui dit aussi les gestes de dons gratuits comme ceux du bon samaritain sont la voie la plus crédible de l'évangélisation. Les gestes de dons gratuits comme ceux du bon samaritain sont la voie la plus crédible de l'évangélisation. Ça vaut le coup de se le redire. Oui, pardon, allez-y Philippe.
Oui, j'ajoute quelque chose que le pape a dit et je crois qu'il faut s'y intéresser dans cette démarche de gratuité. Du sens profond que l'on peut avoir de l'autre, c'est qu'il insiste sur le fait que l'acte médical et la structure médicale ne doit pas chercher avant tout le gain, ne doit pas chercher le profit, mais être bien et sûrement attaché à l'attention à la personne. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et je crois qu'il y a une réflexion à mener dans le milieu hospitalier aujourd'hui, en France en particulier.
C'est un boulevard pour les institutions catholiques, ça.
Et oui. Et c'est, voilà ce que disait Nicolas Senès tout à l'heure, hein, qui me paraît en écho dans ce propos, c'est qu'effectivement, l'Église a une parole forte à porter. Hein. Notre société est aujourd'hui un peu désespérée, en effet, et l'Église lui apporte des chemins qui s'ouvrent devant nous. Il ne faudrait pas qu'il soit obstrué par la seule question de la pédophilie, vous comprenez?
Les structures catholiques sont appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité en réponse à la logique du profit à tout prix, de donner pour obtenir, de l'exploitation qui ne s'embarrasse pas des personnes. On a fait une émission récemment sur le plan santé 2022 et Dieu sait si ça semble être d'actualité. Je donnerai juste cette phrase pour finir de cette journée mondiale du malade. La joie du don gratuit est l'indicateur de la santé du chrétien. On va dire que c'est tout pour les discours du pape à l'occasion de ces fêtes. Je vous invite, si vous avez envie de retrouver les homilies du pape François, je vous redonne le site internet, c'est vaticannews.va. Ça vaut le coup de se plonger dedans, car il a dit de très belles choses dans l'occasion de ces fêtes de Noël. Maintenant, nous allons nous pencher sur ce pays continent, donc la République démocratique du Congo. Ont eu lieu là-bas des élections qui doivent donner un successeur au président Kabila. Et l'Église là-bas est aux premières loges. Elle a veillé au déroulement de ces élections. 40 000 observateurs de l'Église catholique se sont rendus dans les bureaux de vote et a été proclamé vainqueur, je crois que c'était le 11 janvier dernier. Un certain, vous allez m'aider, voilà que je ne retrouve
plus. Tshisekedi. Félix Tshisekedi.
Félix Tshisekedi avec à peu près 38% des voix, 7 millions de votants, 38,57, suivi de Martin Faoulou, plus de 6 millions de voix, et enfin Emmanuel Ramazani Chadari, qui je crois était le candidat de Kabila. L'Église, coup de tonnerre, a laissé entendre que les résultats de ces élections n'étaient pas les bons. On peut dire que c'est une situation politique à laquelle tout le monde est attentif, parce que la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est ce pays continent au cœur de l'Afrique centrale, qui a été le lieu, qui est encore le lieu de véritables massacres, l'instabilité politique qui inquiète le monde entier, et l'Église semble quelque part détenir le résultat de cette élection, Philippe Dazébrun.
Oui, parce que l'Église a toujours joué un rôle fondamental dans l'histoire du Congo, qui s'appelait autrefois le Zaïre, avec cette personnalité dominante qui a suivi une guerre civile épouvantable de Lumumba. Et effectivement, l'Église a joué souvent avec le recours de Kabila, de Lumumba ou sans, contre lui, le rôle d'arbitre. Et on voit bien que ici, l'Église a été l'Église du Congo a été un élément d'observation et d'alerte, puisque les résultats présidentiels ont proclamé, du moins, officiellement, par cette commission qui supervise la déclaration des résultats, qui est la commission électorale nationale, on voit bien que ces résultats ont fait l'objet de tractations entre, d'un côté, le président actuel sortant, qui est Kabila, et d'autre part, cet opposant, Tshisekedi, qui a été proclamé président, mais qui n'a pas le soutien, effectivement, des catholiques, de l'Église en particulier. Et on voit bien l'idée, c'est que Kabila, en lui donnant la présidence par une fraude électorale, s'assure, lui, d'être en repos vis-à-vis de la justice quand il ne sera plus président.
Alors, il faut dire que la République démocratique du Congo donc, est dans une phase de transition démocratique qui a surpris, hein, assez exceptionnelle, puisque Joseph Kabila devait partir du pouvoir et à partir de décembre 2016, bravant la répression, les Congolais et l'Église catholique, avec de nombreuses manifestations, finit par contraindre le président à renoncer, à se représenter et à organiser ses élections libres. Est-ce inédit, vous qui êtes historien, ou qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ça paraît fou dans un pays comme la France d'imaginer le président de la conférence épiscopale suite à une élection présidentielle qui dirait non, ce n'est pas, je dis n'importe quoi, François Fillon qui a été élu, c'est Emmanuel Macron et tout le monde semble suspendu à la parole de l'Église.
Oui, mais nous sommes en Afrique et nous sommes aussi au milieu de combats qui relèvent plus de combats ethniques, quelquefois, de passe-droits, de clientélisme. Et donc, il faut bien qu'il y ait un arbitre dans toutes ces luttes de factions. Et l'Église a toujours joué cet ordre-là.
Est-ce là son rôle, quelque part?
Oui. Écoutez, en tout cas, c'est un rôle de pacification. Et quand, du reste, la conférence épiscopale nationale du Congo a fait appel à l'ONU tout récemment, le 11 janvier, pour demander à ce que l'ONU réclame la publication des procès-verbaux des élections, des lieux où ont eu lieu les élections. Donc on a quand même, de la part de l'Église, une recherche évidente de la vérité. Vous l'avez dit, l'Église catholique a déployé 40 000 observateurs dans les bureaux électoraux. L'Église protestante fait corps avec l'Église catholique dans cette démarche, c'est-à-dire l'Église du Christ du Congo a envoyé 10 000 observateurs et dit la même chose. Il y a irrégularité, il y a fraude. Et je pense qu'on peut parier que l'actuel archevêque et nouvel archevêque de Kinshasa, qui est Monseigneur Fridolin Abongo, qui avait été nommé il y a quelques mois, qui est un homme, je dirais, de très grande envergure, qui connaît bien la situation, qui a été, c'est un religieux capucin, docteur en théologie, qui a été un opposant au régime de Lumumba, de Mobutu, etc. C'est un homme qui a l'envergure de la contestation, si jamais on restait dans cette situation où nous avons des irrégularités évidentes.
Et on imagine que Rome est évidemment très attentive à cette situation et qu'il doit y avoir quelques coups de téléphone entre cet archevêque que vous venez de citer et le Vatican. On se penche maintenant sur l'Ukraine. Alors, charge à vous de nous aider à comprendre quelle est la situation, de la démêler. Il y a eu récemment un coup de tonnerre, on va dire, dans le ciel chrétien de ce pays. Le Conseil d'unification de l'Église orthodoxe ukrainienne a confirmé confirmé le samedi 15 décembre la création d'une église orthodoxe indépendante de Moscou, donc en Ukraine, dans la situation politique que l'on connaît avec cette annexion donc, de la Crimée par les forces russes. C'est une création d'église donc, orthodoxe ukrainienne indépendante du fameux patriarcat de Moscou qui a été soutenue par le président lui-même, le président ukrainien Petro Porochenko. Et on a l'impression, en tout cas à lire les quelques articles que j'ai trouvés dans la presse, et entre autres dans le journal La Croix, que cela fait trembler une partie des églises orthodoxes d'Europe de l'Est. Alors pourquoi, Philippe Dazévin ?
Je crois qu'il faut reprendre, je dirais, le contexte pour rentrer un peu dans la chronologie. Il y a dans l'église orthodoxe quatre grands patriarcats, qui sont les grands patriarcats anciens, c'est-à-dire Constantinople, qui a la... je veux dire, l'autorité majeure.
D'honneur, en tout cas. Oui,
tout à fait. Il y a Alexandrie, il y a Jérusalem et il y a Antioche. Bon. Donc Constantinople est majeur. Ce qui fait que le patriarcat de Moscou est considéré comme, non pas mineur, mais en tout cas second par rapport à Constantinople.
Même s'il ne se voit pas comme tel, mais bon,
non,
c'est...
Non, d'autant plus que le patriarcat de Moscou représente le patriarcat le plus important en termes de nombre de fidèles. Voilà, il y a 250 millions de fidèles orthodoxes qui relèvent du patriarcat de Moscou, ce qui n'est pas le cas de celui de Constantinople. Donc il y a là, je dirais, des données de hiérarchie et de position numérique.
Que s'est-il passé du coup ?
Alors la rivalité, il faut remonter un peu plus loin avant de rentrer dans le vif du sujet. La rivalité est très ancienne parce que Moscou, si vous voulez, conteste à Constantinople cette primauté. Et d'autre part, il y a eu de la part de Moscou des gestes très hostiles à Constantinople, notamment celui de réunir les leaders du monde orthodoxe en 2016, en dépit de ce que pouvait penser Constantinople. Donc, en Ukraine, si vous voulez, nous sommes dans cette déchirure. En Ukraine, il y a trois communautés orthodoxes. Il y en a une qui relève du patriarcat de Moscou, qui est dirigée par le patriarche Kirill, et qui, patriarcat, est rattaché à Moscou depuis des siècles, depuis 1686. Et puis, il y a une deuxième communauté qui, elle, est toute récente, si vous voulez, en termes d'histoire, qui est le patriarcat qui relève du patriarcat de Kiev, qui date de 1992 et qui s'est dissocié de la précédente à la faveur de l'effondrement de l'Union soviétique, donc à la fin des années 80. Et puis, il y a une troisième communauté qui, elle, est très minoritaire, qui est dite autocéphale. Et donc, ce sont les deux dernières, celles qui relèvent du patriarcat de Kiev et l'autocéphale, qui veulent constituer une église d'Ukraine, soutenue, comme vous l'avez dit, par le président Porochenko, qui, vous le voyez, met en arrière-plan de cette question religieuse, un arrière-plan politique vis-à-vis de Moscou, vis-à-vis de Poutine, qui soutient avec, je dirais, vigueur, et il l'a fait encore récemment, le patriarche Kirill de Moscou.
Voilà, et Petro Porochenko dans l'autre sens, qui s'est félicité de l'arrivée donc de cette église sans Poutine, sans Kirill et sans prière pour l'armée russe. C'est pareil, pardon de la naïveté de ma question, mais vu de France, d'un pays profondément laïque, si ce n'est pas plus, on peut être surpris de la manière dont les églises et ces églises orthodoxes se laissent, alors pardon, le mot est peut-être pas très juste, se laissent en partie instrumentaliser ou en tout cas une forme de proximité avec le pouvoir. Comment expliquer ça ? Comment l'historien que vous êtes explique ça ? Comment le contextualiser ?
Disons que tout le processus que nous avons connu en Europe de l'Ouest, se met en place à partir de la réforme, en gros, à partir du XVIe siècle, visant à séparer l'Église et l'État, finalement, a concerné l'Europe de l'Ouest, mais guère l'Europe de l'Est, finalement. C'est l'Europe qui était sous l'autorité de l'Église orthodoxe. Ce qui fait qu'il y a toujours eu, notamment en Russie...
Il n'y a pas de laïcité, du coup,
Non.
Très peu.
Il y a toujours eu en Russie une porosité, pour ne pas dire une symbiose, n'est-ce pas, entre l'Église orthodoxe et les tsars. Si bien que en 1917, après la Révolution, cette église a été persécutée, est devenue l'église souterraine, l'église des catacombes, en quelque sorte. Et à la faveur de l'effondrement du communisme de ce côté-là de l'Europe, l'église est redevenue, en quelque sorte, à part entière, un élément constitutif de l'identité russe. Si bien que
l'âme de la nation.
Et oui, si bien que le pouvoir trouve intérêt à s'appuyer sur cette église, puisqu'elle est identitairement formatrice de l'âme russe, comme vous le disiez justement. Et d'autre part, l'église tire des bénéfices aussi à être du côté du pouvoir. Si bien que cette rupture qui existe en Ukraine est à la fois politique, mais aussi religieuse. Ceci traîne depuis quelques mois, puisqu'on a quand même, depuis le mois d'avril, cette séparation qui se prépare. Les deux patriarches, Kirill et Bartholoméos, Kirill pour Moscou, Bartholoméos pour Constantinople, se sont rencontrés à la fin du mois d'août, et ceci a débouché sur une fin de non-recevoir de part et d'autre, si bien que le processus s'est enclenché depuis le mois de septembre, et a abouti, il y a très peu de jours, le 5 janvier, à la déclaration d'indépendance de cette église d'Ukraine, avalisé par un décret de Bartholoméos, patriarche de Constantinople.
On y reviendra. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on va faire une deuxième pause et puis on vous retrouve. On va parler donc des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était en 2018, mais il est toujours temps on a toujours une session de rattrapage, on va dire, en ce début d'année. Et puis je demanderai à Philippe Dazébrun quelle est, selon lui, la bonne nouvelle de l'actualité de l'Église universelle qu'il retient pour l'année passée.
Grimace sentimentale, on garde le moral, hélas, pas le reflet. Je t'aime de temps en temps, tu m'aimes quand on s'entend, mais je reste consentant si tu fais ce qui me plaît. De sourire en fou rire, en soupir de désir, et presque s'étourdir à en perdre la fête. La peine d'éviter la peine, vivons la peine, vivons la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine, vivons la peine, vivons la pleinement. Amour que l'on dévale à deux sur un cheval, une chance que l'on s'évade à l'unisson. Je rêve quand tu t'endors, tu planes et je m'envole. Qu'importe les symboles, tu me fais le même effet. De succès en erreur, nos secrets de bonheur, on prend de la hauteur, ensemble atterrissons. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la peine, vivons la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la peine, vivons la pleinement, vivons la pleinement. Vivons la pleinement, vivons la pleinement, vivons la pleinement. La peine, vivons la peine, vivons la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la peine, vivons la pleinement, vivons la pleinement. Vivons la pleinement,
vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc revue, j'allais dire de presse, on revient sur l'actualité du mois précédent, actualité donc du pape François et des églises dans le monde, avec Nicolas Senez en début d'émission, journaliste à Rome, correspondant du journal La Croix, et Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. On s'était dit donc qu'on allait essayer de rattraper mon retard pour l'année 2018, c'était donc les 70 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies, anniversaire qui a été célébré donc tout au long de l'année dernière. Et le 10 décembre de l'année passée, le pape François s'est adressé a donné un message sur le sujet qu'il n'a pas donné de lui-même. C'est le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, qui l'a fait. C'était à l'occasion d'une conférence internationale sur les droits humains. J'avais peut-être une question en préambule avant qu'on regarde ce que le pape François a dit. On se le disait pendant la pause, on a eu beaucoup de mal à trouver des déclarations, j'allais dire conséquentes, pardon pour le pape François, mais en tout cas beaucoup de déclarations autour de ces 70 ans. Ça vous a surpris, ceux qui sont des grands défenseurs des droits de l'homme, je pense que c'est meuve que la parole des chrétiens soit pas plus vigoureuse à l'occasion de cet anniversaire, Philippe Dazébrun.
Oui, cet anniversaire est assez révélateur de l'évolution de la société actuelle, me semble-t-il, dans la mesure où on connaît quand même toutes les associations qui sont aujourd'hui impliquées dans la défense des droits de l'homme, notent une désaffection. On a beaucoup de peine à recruter des bénévoles, des militants, etc. Donc il y a une crise, je crois, de l'aide humanitaire, enfin de toute cette considération qui tourne autour de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi ? Eh bien, je pense que lorsque nous étions dans la période qui a un peu précédé la nôtre, c'est-à-dire la période de la guerre froide, il y avait finalement, si on était schématique, deux mondes. Le monde dit libre que nous représentions de ce côté-ci, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, enfin bon. Et puis le monde asservi par le communisme de l'autre côté du mur. Bon, c'était schématique, mais c'était, je dirais, simple. Lorsque, de l'autre côté, les orientaux, entre guillemets, ont commencé à nous ressembler, l'Europe de l'Est a fini par être atteinte par ce libéralisme, que les États-Unis ont commencé à être les maîtres véritables du monde, de quoi s'est-on aperçu ? On s'est aperçu que, au nom du libéralisme, on a mené des guerres, en Irak, ailleurs, et que pour autant, les droits de l'homme n'ont pas été célébrés. Que pour autant, la faim dans le monde continue, que pour autant, l'égalité entre hommes et femmes n'est pas une réalité, etc., etc. Par conséquent, je crois que ce temps-là, qui fait suite à la guerre froide, où le libéralisme pouvait apporter à la fois des libertés et des droits, est un monde qui déchante.
C'est un rêve déçu, oui, ou alors il y a une forme de suspicion maintenant autour presque des défenseurs de ces droits de l'homme. Si on se penche donc sur ce discours, qui n'est pas très long, que le pape François donc a adressé indirectement, j'ai noté que le pape François commence par relever toutes les formes d'injustice contemporaine, nourries par des visions anthropologiques réductrices et par un modèle économique fondé sur le profit qui n'hésite pas à profiter de l'homme, à le jeter et même à le tuer. Alors ça, c'est vraiment du pape François, c'est-à-dire qu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Et tout de suite, il redésigne l'ennemi contemporain, ce modèle économique, mais aussi donc des visions anthropologiques réductrices, ça vaut le coup de le souligner. Il dit, entre autres, que les enfants à naître, à qui est renié le droit de venir au monde, sont peut-être, et il commence presque son discours par ça, les premières victimes de ce piétinement de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que ça vous a frappé aussi?
Oui, tout à fait, mais on en vient alors là, pour le coup, à la critique de ce monde qui est né de la fin de la période précédente, qui est celle du, comme il le dit, de la culture du déchet. Voilà. Et autant on accumule les déchets dans nos poubelles, autant on peut accumuler effectivement des déchets qui concernent la vie humaine. Donc cette culture du déchet est dénoncée là par le pape avec la vigueur qu'on lui connaît.
Ensuite, le pape François parle de tous les invisibles. Il désigne aussi les marchands de mort sans scrupules qui s'enrichissent au prix du sang de leurs frères et sœurs. Qu'est-ce que vous avez noté peut-être pour finir, Philippe Dazébrun? J'ai vu à la fin un appel important à tous ceux qui ont des responsabilités institutionnelles. On va dire la boucle est bouclée avec cette journée. Journée mondiale de la paix qu'on citait hein, au début de l'émission, adresse faite aux politiques.
Oui, moi je dirais que le pape est un vrai pédagogue, c'est-à-dire qu'il revient sans arrêt sur ce qui est l'essentiel du message qu'il veut donner. Et je crois qu'on ne... Voilà, il ne dévie pas de ce qui est la ligne directrice de son pontificat.
Voilà, en demandant à ses politiques de placer les droits humains au centre de toutes les politiques, y compris celle de la coopération au développement, même lorsque cela signifie d'aller à contre-courant. Aller à contre-courant, ça aussi c'est du pape François. Pour finir, votre coup de cœur, j'allais dire, pour cette année 2018, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité de l'Église universelle que vous vouliez noter comme étant une bonne nouvelle, Philippe Dazébrun?
C'est une bonne nouvelle qui est passée complètement inaperçue. C'est peut-être dans l'inaperçu que quelquefois on voit un peu une lueur, n'est-ce pas, qui peut éclairer le reste, ou du moins être révélateur de ce qu'est l'ensemble. C'est la création, au début du mois de décembre, donc de l'année dernière, au Vatican d'un observatoire international sur les familles. En relation avec une douzaine de partenaires, et notamment l'Université catholique de Murcie et le Centre international des études familiales de Milan. Quel est l'objet de cet observatoire? Il s'agit, en usant et utilisant des ressources des sciences humaines, d'observer l'évolution des familles à travers le monde. Bien évidemment, en ayant des critères d'évaluation qui sont à la fois comparatifs, qualitatifs, et qui permettent comme ça d'avoir une réflexion. Un éclairage.
Et pourquoi est-ce vraiment une bonne nouvelle? Parce qu'on imagine que Rome devait être quand même bien informée sur ce sujet, non?
Oui, mais Rome était certainement informée, bien évidemment, mais faire appel aux sciences humaines, aider aux partenaires mondiaux, parce que les 12 partenaires dont je parlais sont situés aux quatre coins du monde, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre les ressources qui sont à disposition de l'intelligence humaine pour comprendre un phénomène et pour mettre en valeur une image de la famille. Et il me semble que cette ouverture à ce que sont les sciences humaines, et qui sont toujours un peu, je dirais, regardées avec suspicion de la part des sciences religieuses, me paraît de très bon aloi.
Eh ben merci beaucoup Philippe Dazébrun et merci à Nicolas Sonnez d'être venu à nouveau donc pour nous décrypter cette actualité de l'Église universelle. Rendez-vous est pris pour le mois prochain, donc premier mercredi de février. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac et par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.